à Dieu. Hier soir, je me suis endormi avec un texte sur le cœur, mais je me suis endormi quand même. Des fois, ça arrive que je ne dors pas du tout, parce qu'une fois que ça rentre dans la tête, le texte, j'ai du mal à... Mais hier soir, cette question s'est posée à moi. Je ne sais pas si vous avez entendu le vent hier soir. Il n'y avait pas de vent chez vous. C'était que ici. Voilà. Et vous savez, quand il y a du vent, il y a des bruits où on a l'habitude. On sait ce que c'est. Parfois, on fait la chasse au bruit. On veut savoir ce que c'est pour pouvoir être tranquille. C'est vrai. Il y a des choses auxquelles on est habitué. On est habitué à la manière de parler des uns et des autres. On est habitué même à la manière de marcher. Quand on entend quelqu'un marcher dans la maison, on sait qui c'est. C'est vrai ou pas? Et alors, je me suis interrogé hier soir sur cette question. 3 ans permettent d'apprendre à reconnaître la marche de quelqu'un, non? On sait quel est son pas. On reconnaît quelle est sa manière de fonctionner. Parfois, on a même des gestes qui se répètent, et ceux qui nous observent bien, ceux qui ont l'habitude, ils savent. Ils savent la manière de marcher, la manière peut-être même de parler. Il y a plein de choses. Et parfois, même quand on entend quelqu'un parler, on se dit, tiens, celui-là, il me ressemble à un tel. C'est fou, hein, ça peut déteindre sur quelqu'un, n'est-ce pas? Alors, je me suis posé la question, puisque là, on va prendre un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Comment est-il possible que 2 hommes qui ont marché pendant 3 ans avec Jésus se retrouvent avec Jésus en train de marcher et ils n'ont pas reconnu le pas? Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu reconnaître le pas, la démarche, je verrais même la manière de parler de Jésus, parce que certainement physiquement ne devait pas être le même. Donc on peut être perturbé de dire il ressemble, mais ce n'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui, on ne sait pas. Mais reste le fait que quelque chose a interpellé mon cœur et cette pensée, j'aimerais la partager avec vous. Davantage apprendre à écouter notre cœur. Savoir écouter notre cœur. On lit ensemble le texte. Donc en Luc chapitre 24, à partir du verset 13, il dit « Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12 kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et non magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et on l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ils ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les Écritures de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retenirent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà là, sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et l'ordonna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas ?» en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Amen. Alors je lisais ce texte dans ma tête hier soir et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Souvent, dans notre vie personnelle, je pense qu'il arrive des moments où Jésus lui-même, d'ailleurs c'est une promesse, non? Je serai avec vous tous les jours. Mais il y a des moments particuliers dans notre vie où il est même fort possible que Jésus soit à nos côtés et nous on ne s'en rend pas compte. On est tellement pris par nos problèmes, nos difficultés, nos pensées qu'on pense que Dieu est loin de nous. Alors qu'il est tout près. Alors en analysant ce texte, je me suis dit quand même c'est étonnant puisque le texte dit Jésus lui-même. Jésus lui-même. C'est beau ça. Il aurait pu envoyer des anges, non? Il aurait pu envoyer tout ce qu'il voulait. Mais Jésus lui-même. Qui aimerait que Jésus lui-même chemine avec lui? Vous osez pas? Ah, moi, je lève les deux mains et les deux pieds si je pouvais. Oui, je dis, Seigneur, c'est magnifique. Jésus lui-même est avec moi. Dans des circonstances où moi, je ne comprends pas, où j'ai perdu complètement la raison, même par rapport à tous les projets que j'ai pu me faire dans ma tête, me dire, Seigneur, mais moi, je pensais que. Et là, Seigneur, je ne comprends pas. Mais en réalité, si on analyse bien, le problème, c'est que ces hommes, ils étaient empêchés de le reconnaître. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de reconnaître Jésus? Puisqu'on a dit tout à l'heure que quand on a l'habitude de vivre avec quelqu'un pendant 3 ans, on arrive à reconnaître même le bruit de ses pas, la manière de poser le premier pied. Moi, je sais que j'ai un sommeil très léger à la maison. Dès qu'un des enfants bouge, je l'entends. Et le matin, je lui dis, t'as dit ça, t'as parlé comme ça, t'as fait ça. Ah bon, tu m'as entendu? Je me suis juste tourné dans le lit, je t'ai entendu, mon fils. Comme ça, ils savent que papa est attentif. Et alors Dieu? Est-ce que Dieu ne sait pas quand vous vous agitez dans votre lit? C'est un père, hein? Dieu sait quand vous dormez bien, quand vous ne dormez pas. Dieu sait quand vous avez des problèmes ou quand tout va bien. Quand tout va bien, vous dormez comme des bébés. Quand ça ne va pas, ben, on ne dort pas bien. Ce n'est pas évident. Et là, dans ce texte, on voit qu'il y a quelque chose qui empêche ces hommes de reconnaître que c'est Jésus. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui a pu leur empêcher de reconnaître que c'était Jésus? Combien de fois dans notre vie, même avant de donner notre cœur au Seigneur, certainement le Seigneur avait déjà voulu cheminer avec nous, nous interpeller, venir saisir notre cœur. Et nous, on n'a pas compris que c'était Jésus. On pensait que c'était juste un voyageur du coin. Quelqu'un qui venait comme ça nous interpeller et hop, il est reparti. Il y a bien des témoignages où des hommes et des femmes ont eu une rencontre particulière avec le Seigneur, à un moment particulier de leur vie. Et seulement plus tard, ils ont pu le saisir. Le jour où en réalité, ils ont réussi à reconnaître que c'était l'œuvre de Christ. Et je crois que chacun de nous, on peut véritablement croire dans le fait que Jésus lui-même est venu nous chercher. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui a pu rendre difficile pour eux de reconnaître Jésus? La déception? D'ailleurs, ils le diront. Ils étaient déçus, ils pensaient que. Ils avaient un projet, ils voyaient en Jésus ce chef militaire qui aurait délivré le peuple juif, il aurait renvoyé tous les Romains chez eux. Non? C'était une belle solution, mais ce n'était pas la solution de Dieu. Ce n'était pas ça le plan de Dieu. Ils avaient fait tellement de projets, ils avaient vu tellement de beaux miracles. Et ils ne comprenaient pas comment, pourquoi Dieu qui avait fait autant de miracles par Jésus, son fils, ben il l'a laissé aller à la croix. C'est incroyable de comprendre que Dieu ait pu laisser son fils aller à la croix. Encore aujourd'hui, pour certains, c'est incompréhensible qu'un père puisse laisser son fils aller à la croix. Pour qui? Pour des injustes. Mais tel est l'amour de Dieu pour nous. Telle est la grâce de Dieu pour nous. Qu'il fallait bien qu'il y ait un sacrifice que seulement Jésus pouvait accomplir. Parce que sans péché. Et si l'incompréhension est un obstacle, je dirais que le deuxième obstacle, c'est aussi parfois la manière où on s'entretient. Vous avez vu ? De quoi vous entretenez-vous en chemin ? Parfois, nos discussions peuvent nous amener très loin. D'ailleurs, ils ont fait 12 kilomètres. J'espère que quand même, ils avaient l'intention d'aller dans la direction. Reste le fait qu'en chemin, on a tous l'habitude parfois de parler du plus du moins. On commence par ce qui s'est passé dans la journée. Et parfois, après, on commence à évoquer des sujets qui nous touchent plus personnellement. Et là, Jésus apparaît comme un cheveu dans la soupe. Et il leur pose la question « De quoi parlez-vous ? » Comme si Jésus ne sait pas de quoi on parle. Et d'ailleurs, vous savez, parfois, quand on prie en expliquant au Seigneur comme si lui ne savait pas. Mais il dit, attends, je vais t'expliquer la bonne version. Il connaît tout. Et Jésus les laisse parler. Bien des fois, le Seigneur nous laisse parler pour que nous puissions prendre conscience de ce qui est au plus profond de notre cœur. Et parfois, ce qui n'est pas bon, vous savez, il faut qu'il sorte. Le Seigneur veut que ça sorte parce qu'il faut le régler une fois pour toutes. Il faut qu'à un certain moment, on puisse mettre des mots sur des sentiments, sur des souffrances, sur des problèmes, pour que le Seigneur puisse nous guérir là où il faut. Si vous allez chez le médecin, vous dites « Bonjour docteur », et il vous dit « Comment allez-vous » et vous ne répondez pas. « Où est-ce que vous avez mal ?» Il dit « C'est vous le médecin, c'est à vous de me le dire. » Ça va être pénible pour lui de pouvoir vous donner un traitement adéquat. Il peut soigner vos pieds alors que vous avez mal à la tête. Ou soigner la tête alors que vous avez mal aux pieds. Et comme on n'a pas envie de perdre du temps, puisqu'on en perd déjà pas mal en salle d'attente, et on va y revenir sur ça, mais on dit tout de suite au docteur, tout va bien, mais voilà, j'ai mal ici, j'ai mal là-bas, j'ai ceci, j'ai cela. Si vous pouviez en plus me mettre ça pour éventuellement, si au cas où, Doliprane, Dosoci. On connaît tous les médicaments, hein. Des fois on est étonné, il y a des mots scientifiques qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on les connaît. Et là le médecin il nous fait la recette et on est reparti avec notre popote de médicaments. Parfois Dieu permet qu'on soit dans la salle d'attente. Et là le cheminement de ces deux hommes c'est un peu la salle d'attente. Avoir le temps de mijoter. Être sûr de ce qu'on veut. On a dit, premièrement, l'incompréhension. Deuxièmement, qu'on entretient comme discours, comme sentiment. La troisième chose, c'est la mauvaise décision. Partir de Jérusalem alors que Jésus leur a dit de rester. Combien de fois on peut prendre une direction que Dieu ne nous a pas dit de prendre ? Est-ce que Jésus sait ce qu'il dit ? Est-ce que Jésus, jusque-là, il leur avait jamais menti ? Est-ce qu'ils s'étaient jamais trompés ? Non. Alors qu'est-ce qui leur a pris à ces deux hommes pour partir alors que Jésus leur avait dit de rester ? Alors on pourrait facilement ce soir pointer du doigt sur les deux hommes du chemin d'Emmaüs et dire « Oh là là !» Mais je peux vous assurer que certainement il y a eu des occasions où nous aussi, on a pris une direction qui n'était pas celle que le Seigneur voulait pour nous. Et pourtant, il est venu nous rechercher. On a été cette brebis égarée qui a obligé le berger à quitter les 99 pour aller la chercher. Vous savez que c'est terrible pour une brebis d'être seule ? Elle peut mourir. Il semblerait, alors je ne suis pas spécialiste dans la matière, mais j'ai entendu dire qu'une brebis tout seule, elle meurt. Et elle a besoin d'entendre le bêlement des autres, elle a besoin de s'entendre entourée par les autres. C'est la raison qui fait que le berger aussi n'a pas de difficulté à quitter les 99 pour aller chercher celle seule, parce qu'autrement elle mourrait. Pas seulement attaquée par les loups, mais mourir de solitude. C'est pour ça qu'un chrétien ne devrait jamais, jamais rester tout seul. Il ne devrait jamais quitter la bergerie. S'isoler, c'est se mettre en danger. Et là, dans le texte, on voit que Jésus va les chercher. Et là, ils lui disent, es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Vous savez, Jérusalem était quand même un centre très fort de la foi, de la religion, mais aussi commercial. Et à ce moment-là, il y avait des peuples de toutes nations qui étaient présents. Donc tout le monde a su ce qui s'est passé pour Jésus. Il dit, comment est-il possible que toi, tu n'aies pas eu l'information? Pourtant, les réseaux sociaux ont parlé. Non? Face de Rome a parlé. Ce n'était pas face de Facebook, c'était face de Rome. Il y avait tous les réseaux sociaux ont parlé. Tout le monde a vu, puisque la crucifixion a été un moment même très fort de cette fête. Les Juifs se sont réjouis parce qu'ils avaient pensé mettre fin à une secte et pensé que tout était réglé par cela. Et Jésus continue à les écouter. Et là, il y a quelque chose de particulier parce qu'à un certain moment, eux, ils vont continuer dans leur discours en disant « Il est vrai que les femmes avaient été très tôt le matin, mais ils n'ont pas cru aux femmes. » Waouh ! Quelle erreur, hein ? Quelle erreur ! Ils auraient dû les écouter. Moi, je ne sais pas vous, mais en général, j'entends beaucoup les femmes dire « Ah, si on était plus écoutés !» Et là, on peut dire que c'est vrai. S'ils les avaient écoutés, ça aurait été un bien. Alors, parfois, je vous rassure, les femmes aussi, elles se trompent. Comme ça, on remet les compteurs à zéro. D'ailleurs, eux, ils sont tellement dans cette confiance qu'ils vont y aller eux-mêmes, mais le résultat ne change pas. Pour eux aussi, ils retrouvent les mêmes choses. Et ce qui est important, c'est que malgré tous ces signes et malgré les paroles, ces deux hommes sont partis. Ils sont partis, ont fait un bout de chemin et en continuant à marcher, il y a un moment où leur foi est quand même fragile. Qu'est-ce qu'est la foi ? La parole de Dieu dit, or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on voit quelque chose, il n'y a pas besoin de la foi. Aujourd'hui, par la foi, on croit en Dieu, on croit en Jésus, on croit dans le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord ? Quand on sera dans le ciel, devant Dieu, on n'aura plus besoin de la foi, parce que nos yeux le verront. La foi doit nous permettre en réalité de réaliser l'importance pour nous de placer notre cœur, notre vie, nous l'avons chanté tout à l'heure, Jésus soit le centre, soit ce pilier sur lequel toute ma maison, ma vie, ma pensée se construit, se bâtit. Si j'enlève le pilier central, tout s'effondre. D'ailleurs, vous savez aussi que, toujours Hébreux 11, verset 6, il dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Avez-vous la foi ? Une fois ou plusieurs fois ? Avez-vous cette foi de dire, Seigneur, moi je sais que même si je devais m'égarer à un moment ou à un autre de ma vie, toi tu viens me chercher. Quelle assurance. Parce que je peux vous dire, ça arrive à tout le monde, tôt ou tard, de s'égarer un petit coup. Peut-être pas forcément 12 kilomètres, mais déjà même un kilomètre, quand on s'est égaré, on s'est égaré. Je me rappelle d'un voyage qu'on a fait avec ma femme, puisqu'elle est là, j'en profite, comme ça elle le saura directement. Juste vous dire au passage qu'elle a refait du poulet, ça allait bien. Mais on partait en Italie et à un certain moment, alors qu'on était sur la route, on avait le GPS, elle a voulu conduire, on arrive vers Milan. Alors Milan, c'est, à ce moment-là, c'était un peu catastrophique pour passer. Et je lui dis, écoute, tu dois tourner là. Elle s'est mise dans la mauvaise direction, mauvaise position. On s'est retrouvé dans un de ces bouchons pas possibles, mais c'est Milan. Milan, vous voyez Arles le matin, l'heure où tout le monde va au travail. Vous faites ça fois 30 et vous avez un tout petit peu l'image de Milan. Il dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, je lui dis, maintenant, il va falloir conduire à la Parisienne. Je lui dis, tu fais du forcing, tu vas. Et finalement, on a réussi à sortir. On aurait dû passer en 2 minutes, mais on a perdu je ne sais pas combien de temps. Ah, tu t'en rappelles plus. Hein. Ça arrive à tout le monde, tôt ou tard, de ne pas écouter l'instruction. Et même si c'est un rond-point, ça nous oblige à refaire un tour. D'ailleurs, combien d'entre vous se sont déjà trompés à un rond-point, ils ont fait 2 fois le tour. On a l'air fine hein, quand on refait le tour. Hein. On se dit non, c'est juste parce que c'est vraiment beau le rond-point, je voulais voir les petits fleurs. La réalité, c'est qu'on s'est trompé. Et parfois, dans notre vie, on tourne en rond. Parce qu'on n'écoute pas le Seigneur nous dire, prends cette direction. Et on tourne en rond. Et vous savez, à force, on a le tournis. Et tant qu'on ne prend pas la bonne direction, on se trompe. On est obligé de refaire un tour pour revenir sur la bonne direction. Et Jésus, à un moment, il leur dira aux hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Voilà le dernier facteur qui nous empêche en réalité de réaliser que Jésus est à côté de nous. C'est le manque de foi. La difficulté du cœur à croire. On le dit souvent que Jésus est avec nous. Mais est-ce que vous le croyez vraiment? Qui croit que Jésus est avec nous? Sûr? Il est avec nous même dans la voiture quand on s'énerve. Hein? À la caisse quand ça ne va pas trop vite. Hein? Il ne descend pas à ce moment-là. Hein? Le seul moment où il descend de la voiture, c'est quand on dépasse les limitations de vitesse. Ah non? Il nous dit là, tu prends des risques, tu y vas tout seul. Non. Il y a un moment dans notre vie où le Seigneur nous fait réaliser sa présence et c'est souvent quand on ne va pas trop bien. Quand on a besoin de consolation. Quand on a besoin d'une main qui se pose sur nos épaules et nous restaure. Ah, qu'est-ce qu'il est beau le psaume 23, l'Éternel est mon berger, oh là là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Alléluia. Ah, c'est beau la main du berger qui se pose sur la brebis et la récupère et la ramène. Et quand elle ne peut pas marcher, il la prend sur les épaules. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est notre Seigneur. Et Jésus, avec amour, même si à un moment il les secoue comme il faut, il leur rappelle toutes les paroles qui le concernent. Et vous savez, plus on lit la parole de Dieu, plus on se rend compte que les temps qui sont les nôtres, Jésus avait tout prévu. Jésus avait prévu nos erreurs. Jésus avait prévu nos fautes. Jésus avait prévu nos chutes. Jésus a tout prévu, il a prévu même la grâce. Il a prévu le miracle, a prévu la guérison. Il a prévu tout ce que nous avons besoin. Et là, en faisant le chemin, le texte dit, il parut vouloir aller plus loin. Jésus est prêt à aller plus loin, jusqu'au bout avec nous. Mais les disciples, ils étaient fatigués. 12 kilomètres, ils se sont arrêtés. Ils avaient fini l'essence. Et ils disent, le soir descend. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'ils n'ont pas reconnu Jésus dans la marche, mais ils ont reconnu Jésus au moment où il a... D'accord. Mais si vous revenez au prénom qui nous a été fait tout au départ du texte, ils n'étaient pas là à la Sainte-Cène. Puisqu'après, ils vont revenir pour dire aux 11 disciples qu'ils avaient vu Jésus. Donc, ils avaient vécu d'autres moments intimes avec Jésus où ils avaient vu la manière de Jésus de leur donner à manger. Puisque la Sainte-Cène, la première fois, c'était avant de mourir que Jésus l'a faite, qu'avec ses disciples. Mais ils avaient l'habitude de prendre le repas avec Jésus. Vous savez, le repas, dans la conception juive, on ne prenait pas de repas avec quelqu'un avec qui il n'y avait pas une relation de paix. D'ailleurs, vous verrez dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'il y avait un conflit, un problème, pour sceller la paix, il faisait un repas. Recherché. Une piste. Et d'ailleurs, c'est aussi le sens de la Sainte-Cène. Le repas du Seigneur, c'est un repas de paix entre Dieu et nous. Amen. C'est pour ça que c'est important. On ne peut pas s'approcher indignement de la Sainte-Cène. Il faut analyser notre cœur, analyser notre vie, notre relation verticale, notre relation horizontale. Vous enlevez une des deux, il n'y a plus la croix. Ça ne marche plus. Et là, Jésus leur parle de ça. Et là, le texte, il dit, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait? Je suis certain qu'il y a des moments où la parole de Dieu fait brûler notre cœur malgré qu'on est en train d'aller trop loin. malgré qu'on est en train de s'égarer, il y a des moments où la parole de Dieu nous interpelle. Ça arrive. Le Seigneur le fait exprès, il rallume le feu dans notre cœur et il nous rappelle les promesses, il nous rappelle tout ce qu'il a prévu, il nous rappelle même, excusez-moi, où ça amène l'égarement. Parce qu'il ne veut pas qu'on aille trop loin. Et ce qui est beau, c'est qu'à un certain moment, cela les a poussés à prendre la bonne direction. Alors je ne sais pas dans quel état est votre cœur ce soir. Je ne sais pas combien de kilomètres vous avez fait. Si vous êtes autour du rond-point, j'en sais rien, ça ne me regarde pas. Le Seigneur le sait. Et ce que je voudrais vous encourager ce soir, si la parole de Dieu brûle dans votre cœur, prenez la bonne direction. Dites au Seigneur, Seigneur, conduis-moi. Si je me suis égaré, Seigneur, vous connaissez ce verset de David qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et si je me suis égaré, Seigneur, ramène-moi sur le chemin de la vie. » Peut-être ce soir, quelqu'un a besoin de dire « Seigneur, ramène-moi. Seigneur, j'ai besoin encore de ta parole. J'ai besoin encore que tu ramènes ma vie à toi, Seigneur. » Vous savez, il n'y a pas d'égarement qui nous amène trop loin de Dieu et qui nous empêche et qui empêche à Dieu de venir nous chercher. Moi, je peux vous dire que je m'étais égaré très loin. Et Dieu, dans sa grâce, il est venu me chercher parce qu'il est patient. Et il fait de même pour chacun de nous. On va fermer nos yeux et tout simplement dire encore, Seigneur, ce soir, Seigneur, sonde-nous. Sonde-nous, Seigneur. Seigneur, encore si ce soir, quelqu'un n'avait pas fait cette expérience du salut, si encore quelqu'un, Seigneur, ce soir, s'était laissé égarer par les pensées, par une idée que Dieu n'existe pas, que Dieu est une histoire du passé. Seigneur, que quelqu'un a été peut-être même, Seigneur, attristé de voir le manque de réussite de certains projets, de certaines idées, Seigneur. Seigneur, nous croyons que Jésus, à la croix, il a remporté la victoire. Alors que l'ennemi pensait avoir réussi à lui empêcher les projets, la croix faisait partie du projet. C'était la partie centrale. C'était le point culminant où là, tout avait été accompli. Seigneur, chaque prophétie qui a été donnée a été accomplie pour, Seigneur, montrer le projet que tu avais pour le salut des hommes. De la même manière que chaque prophétie que tu donnes en nous parlant de ton retour s'accomplira. Parce que ce que tu dis, tu fais. Mais tant que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. C'est le temps du pardon, c'est le temps du salut. Alors Seigneur, si on s'est égaré à cause de l'incrédulité, à cause de nos pensées, à cause même de nos discours, à cause de des mauvaises compagnies à cause de plein de choses, Seigneur. Seigneur, viens nous chercher. Et en même temps, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui se sont égarés, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis, pour nos enfants, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de te révéler à eux, comme tu l'as fait pour ces deux hommes. À un moment particulier, tu t'es révélé à eux. Tu leur as rappelé que tu es ce Dieu qui nourrit, que tu es ce Seigneur qui est capable de partager le pain de vie. Seigneur, rallume le feu dans les cœurs. Seigneur, si le feu qui brûle en moi, Seigneur, c'est éteint un peu, je t'en prie, Seigneur, rallume le feu, que nous puissions être embrasés pour Jésus-Christ, embrasés pour ta parole, embrasés, Seigneur, par le Saint-Esprit, pour que nous puissions être des porteurs, Seigneur, de ce feu d'en haut. Seigneur, autour de nous, il y a un monde qui se perd dans les ténèbres et tu nous appelles à être la lumière du monde. Mais si le feu est éteint, comment illuminer? Comment briller? Alors encore ce soir, Seigneur, ramène-nous de nos propres pensées, ramène-nous de nos propres égarements. Seigneur, pour que nous puissions revenir là où toi tu nous veux, où toi tu nous attends, là où tu nous donnes un rendez-vous, Seigneur, avec toi. Un rendez-vous avec le Saint-Esprit, un rendez-vous avec Dieu le Père. Seigneur, merci encore pour ta fidélité et ta bonté. Que ta parole continue à labourer nos cœurs, Seigneur. À toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.